Ça commence par le journal de 18h avec vous, Amélie Perrier. Bonsoir.
Bonsoir Yves, bonsoir à tous. L'État français s'est-il vraiment fait duper par les Pays-Bas? Les Néerlandais ont pris une nouvelle participation au capital d'Air France KLM pour parvenir à terme à la même que la France. Bercy parle d'une opération inamicale, surprenante. On se demandera si Paris a vraiment été mis sur la touche dans cette opération. La poignée de main tente attendue entre Kim Jong-un et Donald Trump. Les dirigeants américains et nord-coréens se sont vus à Hanoï, au Vietnam. Première déclaration cordiale. La propagande nord-coréenne partage l'enthousiasme de son dirigeant. En Asie encore, la tension monte entre l'Inde et le Pakistan. Deux puissances nucléaires, chacun annonce avoir abattu des avions de son voisin. Et puis un jeu vidéo retiré des ventes partout dans le monde, victime de la censure chinoise. Une blague à s'y glisser n'a pas du tout plu à Pékin. Après de nouveaux records de chaleur, le retour de la pluie demain. Le point météo à la fin de ce journal.
Après le journal, nous parlons de l'Ukraine où le président Porochenko remet dans un mois son mandat en jeu, sans garantie d'être reconduit. Et puis dans la deuxième heure, au téléphone sonne, retour sur la mission du patrimoine dont Stéphane Bern a toujours la charge. Il sera d'ailleurs notre invité pour en parler alors que se prépare un deuxième loto du patrimoine. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
France Inter.
Une affaire économique qui tourne à la brouille diplomatique.
L'affaire Air France KLM. Les Pays-Bas viennent de prendre une participation de plus de 12,5% dans le groupe aérien. La Haye veut obtenir à terme la même part que celle de l'État français. Un raid pas du tout amical, dénonce Bercy aujourd'hui. Emmanuel Macron lui-même a demandé au gouvernement néerlandais de clarifier sa position.
Le gouvernement français n'a pas été informé de cette décision et de sa mise en œuvre. J'en prends note. Il appartient maintenant au gouvernement néerlandais de clarifier ses intentions en cette affaire. Et c'est pourquoi le ministre de l'Économie et des Finances a invité son homologue néerlandais à venir à Paris pour pouvoir les expliquer. Ce qu'il importe, c'est que l'intérêt de la société soit préservé, que le droit des sociétés soit respecté et qu'en aucun cas des débats de politique intérieure ne soient importés autour de la table du conseil d'administration. Pour le reste, nous souhaitons un groupe Air France KLM qui soit fort.
Les propos du président Macron recueillis par Audrey Tison. Bruno Le Maire, de son côté, va recevoir son homologue des Pays-Bas en fin de semaine pour une discussion franche, fait-il savoir. Le ministre des Finances affirme que la France n'a pas été prévenue de cette montée au capital. Opération inamicale, surprenante, dit-on à Bercy. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Chef du service économie. Alors l'État français a-t-il réellement été mis sur la touche?
C'est ce que répète inlassablement Bercy depuis hier soir. Et franchement, cette surprise a de quoi surprendre. Comment se fait-il que l'État français, actionnaire d'une entreprise aussi stratégique qu'Air France KLM, découvre que notre État, censé être partenaire, déclenche sans crier gare ce qui ressemble fort à un raid boursier? Sans dit long, soit sur le manque de suivi de la situation de la part de l'État actionnaire, soit sur la colère profonde qui a motivé les Hollandais à agir aussi radicalement et dans le plus grand secret. Ils ont levé 680 millions d'euros sur les marchés financiers pour acheter en deux jours plus de 12% du capital d'Air France KLM. Mais pour ça, il a fallu que le gouvernement consulte ou au moins informe les deux chambres du Parlement néerlandais. Rien n'est remonté par les services de l'ambassade française à Amsterdam. Rien non plus en interne chez Air France KLM. La crise, c'est vrai, couvée depuis plusieurs semaines. KLM avait même mobilisé ses syndicats maison pour qu'ils menacent de faire grève afin de sauver leur directeur néerlandais fragilisé en interne. Un Game of Thrones d'actionnaires et de dirigeants au sommet d'Air France KLM sans conséquence dans l'immédiat pour les clients de la compagnie.
Un feuilleton suivi, merci, par Fabien Cazot. Autre dossier chaud pour Bercy, la scierie d'Ascoval dans le Nord. La justice donne un mois supplémentaire au site pour trouver un nouveau repreneur. Le tribunal de grande instance de Strasbourg va dans le sens de l'État qui s'est également donné un mois pour trouver une solution et tenter de sauver les 281 salariés de l'usine de Saint-Saulve.
À l'étranger, c'est l'image du jour. Donald Trump et Kim Jong-un se serrent la main à Hanoï, au Vietnam.
Pour la deuxième fois, les dirigeants américains et nord-coréens se rencontrent pour tenter de trouver un accord pour dénucléariser la péninsule coréenne. 8 mois donc après le premier sommet à Singapour. Les deux ont rivalisé d'optimisme. Je pense que ce sera un succès, a lancé Donald Trump. Quant à Kim Jong-un.
Je suis certain qu'il y aura de grands résultats qui seront salués par tous. Je vais faire de mon mieux pour que cela se produise.
Voilà la déclaration de Kim Jong-un au micro de notre envoyé spécial Dominique André. Un enthousiasme relayé par la propagande nord-coréenne. Ce matin, le quotidien des travailleurs montrait en une l'arrivée triomphale de Kim Jong-un à Hanoï. Un grand voyage de dévouement patriotique, pouvait-on lire. Et dans le pays, Frédéric Ojardias, les Nord-Coréens partagent la frénésie du régime.
Les usines et les mines de Corée du Nord débordent d'enthousiasme au sujet de la visite de Kim Jong-un au Vietnam, assure la presse officielle à Pyongyang. Ouvriers et employés pensent à lui nuit et jour, ce qui a provoqué une hausse de leur productivité, ajoute même la propagande. Extrait d'un micro-trottoir diffusé par la télévision officielle.
Quand j'ai entendu hier que le respecté maréchal était parti visiter un pays étranger, j'ai décidé d'aller travailler, même si c'est mon jour de congé, parce que je veux contribuer à rendre le leader suprême heureux.
Nous ne pouvons survivre même un seul moment sans lui. Il nous manque tant, depuis que nous avons appris qu'il était parti dans un pays lointain.
Comment puis-je rendre heureux le respecté maréchal quand il rentrera? Pour cela, je travaille 2 à 3 fois plus dur que d'habitude.
La propagande vise ainsi à renforcer la cohésion interne et à rappeler à tous la nouvelle priorité du grand leader, le développement de l'économie. Un message qui prépare peut-être de futures annonces de démantèlement nucléaire. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Décidément, c'est une journée au risque pour Donald Trump, puisque dans le même temps, son ancien avocat, Michael Cohen, comparaît devant une commission parlementaire et livre un témoignage sans merci contre le chef de l'État. C'est un raciste, un escroc, un tricheur, déclare-t-il. Il est interrogé sur les affaires privées du président et sur ses liens avec la Russie, dont ses détracteurs soupçonnent l'ingérence dans la victoire à la présidentielle en 2016. Donald Trump a déjà riposté dans un tweet, il ment pour réduire sa peine de prison, écrit-il. Le ton monte aussi entre l'Inde et le Pakistan. Les Pakistanais ont à leur tour abattu 2 avions indiens et arrêté les pilotes au lendemain de l'annonce par New Delhi d'un tir sur un avion pakistanais au Cachemire, la poudrière au cœur du conflit entre les deux puissances nucléaires. Le premier ministre pakistanais Imran Khan a d'ailleurs évoqué le risque d'un embrasement dans la région et Sébastien Farcy, il a appelé au dialogue.
C'est une escalade militaire explosive qui vient d'avoir lieu entre les deux puissances nucléaires. Jusqu'à présent, New Delhi visait les organisations terroristes pakistanaises et particulièrement celle du Jaïch et Mohammed qui a revendiqué l'attentat du 14 février dernier contre les militaires indiens au Cachemire. À présent, ce sont les deux armées conventionnelles qui s'affrontent. 2 avions de chasse ont été abattus ce matin, un indien et un pakistanais. Et un pilote indien est maintenant prisonnier au Pakistan. New Delhi proteste d'ailleurs contre la diffusion des images qui montrent ce prisonnier de guerre blessé circuler sur les écrans de télévision, ceci à l'encontre des conventions internationales. Islamabad, avec cette conquête de guerre, tend maintenant la main à son voisin. Le premier ministre Imran Khan vient de demander à l'Inde d'accepter le dialogue pour éviter de sombrer dans une guerre destructrice. Mais New Delhi ne peut accepter un tel apaisement sans qu'Islamabad n'agisse sérieusement contre les organisations terroriste pakistanaise qui vise l'Inde. La crise est donc loin d'être terminée entre ces deux éternels frères ennemis. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Et pendant que l'Algérie manifeste contre la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat, la presse suisse affirme qu'il est aujourd'hui hospitalisé à Genève depuis dimanche. Abdelaziz Bouteflika a une santé fragile depuis un AVC il y a 6 ans. Au Nigeria, le chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, est désigné vainqueur de l'élection présidentielle. Son opposant dénonce une parodie d'élection. Il va saisir la justice pour contester les résultats. Buhari est donné gagnant avec près de 4 millions de voix d'avance sur son rival sur 80 millions d'inscrits. Première nuit en prison pour l'ex numéro 3 du Vatican, le cardinal australien George Pell dort derrière les barreaux après sa condamnation pour pédophilie. Le Vatican annonce ouvrir une enquête canonique interne contre lui. La plus lourde sanction encourue, c'est un retour à la vie laïque, comme cela a été le cas pour l'ancien cardinal américain Mac Carrick, défroqué il y a 10 jours après des accusations, là aussi, d'abus sexuels.
18h09, Amélie Perrier, retour en France, où les contrôles anti-pollution sont terminés. Demain, toutes les voitures seront de nouveau autorisées à Lille et à Paris.
Grâce à la pluie et au vent qui arrivent et vont disperser les particules fines. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ont procédé à de nombreux contrôles pour ne laisser passer que les véhicules avec des vignettes critères de 0 à 3. Les autres risquaient une amende de 68 € en théorie. En théorie car à Lille, où la préfecture a instauré la circulation différenciée pour la toute première fois, on a misé Hélène Fromanti sur la pédagogie.
En 2 heures de temps, entre 150 et 200 véhicules ont été contrôlés dans secteur, dont une grande majorité sans vignette sur le pare-brise.
Monsieur, bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi je vous contrôle, monsieur ?
La vignette critère.
Tout à fait. Vous l'avez pas ?
Non, je l'ai pas.
Comment ça se fait que vous l'avez pas, monsieur ?
Avant hier, je savais pas que ça existait.
Ce Lillois s'était quand même renseigné, mais un peu trop tard.
Ben, du coup, je me suis renseigné hier soir et apparemment, ça prenait un mois pour avoir la vignette, pour recevoir la vignette. Donc, du coup, je me suis dit que ça servait à rien.
La plupart du temps, les forces de l'ordre sont conciliantes avec ces conducteurs sans vignette, à condition quand même d'avoir un smartphone comme Cécile.
On peut se loguer directement pour faire la demande sur internet. Donc, du coup, je l'ai fait. C'était soit ça, soit avoir une amende. Donc, j'ai préféré le faire tout de suite.
Un récépissé suffira pour cette fois, car en cette première journée de circulation différenciée, l'idée n'était pas de réprimer, rappelle la capitaine Christine Philippe.
On est aussi dans la pédagogie, donc quand on voit des personnes qui sont de bonne volonté et de bonne foi, ben voilà, on n'est pas là que pour verbaliser. En revanche, quand il faut faire, on fait.
Oui, tout le monde n'échappe pas à la sanction. Mélanie, infirmière, roule dans une vieille voiture de catégorie 5 et elle se serait bien passée de ses 68 euros d'amende.
Ouais, il vaut mieux aider les gens à changer de véhicule. Moi, je serais la première à être contente si je pouvais changer mon véhicule. Moi, rouler dans un véhicule qui a plus de 20 ans, c'est pas forcément ce dont j'ai envie.
Comme elle, une dizaine de personnes ont été verbalisées ce matin.
Le reportage d'Hélène Fromanti à Lille. Alors, plus d'interdiction à Lille et Paris demain. En revanche, un pic de pollution amène la préfecture du Rhône à décréter des restrictions de trafic à Lyon et Villeurbanne dès 5h du matin. Là, il faudra seulement avoir une vignette critère pour circuler, peu importe laquelle. La parole se libère, mais la justice passe son tour une nouvelle fois pour l'entraîneur d'athlétisme Giscard Samba, accusé par une ancienne athlète de viol. L'infraction est insuffisamment caractérisée, a considéré le parquet de Créteil. Les précisions de Guillaume Batin.
Giscard Samba est pris dans la tourmente le 1er avril 2018 au plus fort des mouvements MeToo et Balance ton porc. L'entraîneur d'athlétisme se retrouve au cœur d'une enquête pour abus sexuels. Il est accusé par une jeune athlète de son groupe d'entraînement à l'US Créteil dans le Val-de-Marne et qui souhaite garder l'anonymat. Puis par une seconde qui porte plainte pour viol 2 mois plus tard. Devant les enquêteurs, les victimes présumées expliquent ne jamais avoir dit non, ne pas avoir osé parce qu'elles subissaient une pression psychologique continue. De son côté, Giscard Samba a toujours parlé de relations consenties, son avocat d'accusations délirantes. Celui que d'autres athlètes présentent comme un gourou ou comme le maître d'une secte a été suspendu 1 an par la Fédération française d'athlétisme, une sanction levée depuis le mois d'octobre. L'enquête est désormais classée sans suite par manque de preuves.
Et ces derniers jours, la justice a également classé sans suite les plaintes contre le cinéaste Luc Besson et le comédien Philippe Cobert. On va terminer par un jeu vidéo devenu la cible de la censure chinoise. Un jeu taïwanais vient d'être retiré de la vente partout dans le monde. Il a reçu une avalanche de commentaires négatifs venus de la Chine. Alors pourquoi une telle colère ? Parce que dans l'une des pièces visitées au cours du jeu, une affiche se moque ouvertement, Olivier Bénis, du président chinois.
Le jeu d'horreur Devotion n'a rien de politique et c'est pourtant la politique qui l'a fait disparaître 6 jours après sa sortie. Sur la boutique en ligne Steam, on ne trouve plus que sa bande originale et un message d'excuse des développeurs. Tout ça pour un petit détail pourtant bien caché. Sur un bout de papier visible dans le jeu, on pouvait lire la phrase suivante « Xi Jinping, le Winnie l'ourson idiot ». Un bug selon les développeurs qui assure que la phrase, une sorte de blague en interne, n'aurait jamais dû se retrouver dans la version finale. Mais ça n'a pas suffi. Le jeu taïwanais a subi les foudres de milliers de soutiens zélés du régime chinois, avec envoi massif de commentaires négatifs. Or, sur Steam, la note moyenne donnée par les joueurs est cruciale pour avoir une visibilité et donc des ventes. La page du jeu est devenue le théâtre d'une bataille de commentaires entre taïwanais et chinois, et même le vice-premier ministre de Lille a assuré les créateurs du jeu de son soutien. La mésaventure a braqué les projecteurs sur ce petit jeu discret. Cela pourrait lui donner un second souffle une fois la tempête virtuelle passée.
Olivier Bénis, c'est de plus en plus politique également. L'Eurovision, l'Ukraine annonce son retrait du concours de chant. 4 groupes ont refusé de représenter le pays sur fond de tension avec Moscou.
Et l'Ukraine, ça tombe bien, on en reparlera avec notre invité dans un instant. Merci Amélie Perrier.